Chapitre 55. La baffe résonna dans toute la pièce. Les mains menottées dans le dos, Joseph Cavanna bascula et manqua de tomber. Charcot le redressa d'un geste dur, pas mécontent pour une fois de la dérouillée que son collègue administrait à leur garder à vue. « Ton pote à côté, il est en train de tout déballer », lança Serge. « Je te laisse 5 secondes pour écarter les morceaux de pamplemousse qui te servent de lèvres et continuer ton histoire. Alors on reprend tranquillos. Tu t'appelles Joseph Cavanna, t'as 20 ans et tu crèches rue d'Oran. Avec qui? Combien vous êtes dans ton taudis ?» On approchait des 3 heures du matin. Franck avait lutté contre un coup de fatigue sur le trajet du retour, mais pas de nausée ni de tremblement. Après leur arrivée à Marly-la-Ville, Santucci et Le Glaive étaient restés sur place avec les équipes du commissariat local et de la BRI. On recherchait toujours activement Madly souffrant dans le voisinage. Florence et Einstein avaient débarqué aussi vite que possible et s'occupaient du deuxième jeune.
« Je dirai rien, Tidjane non plus !»
Cavanna fit rouler sa tête. Sa nuque craqua. Il était grand et solide, avait les cheveux aussi noirs que crépus et était vêtu d'un survêtement Adidas crasseux troué au coude.
« Tu n'as pas l'air de piger la gravité de la situation, gamin. Complicité d'enlèvement, sur un inspecteur de police en plus, ça te cause ? T'as déjà un casier long comme le bras, agression, vol à l'arraché, vol de véhicule. Mais là, t'es passé à un niveau supérieur. Tu vas en prendre pour 10 ans si tu t'obstines. »
Serge se baissa, lui serra le menton entre son pouce et son index et parla à 2 centimètres de son visage. « Avant le lever du soleil, on aura chopé la sorcière. Elle a nulle part où aller. Elle va finir ses jours en tôle et ses incantations à 2 balles n'y changeront pas grand-chose. » « Toi, tu peux encore t'en sortir. Si tu nous racontes tout ce que tu sais, on plaidera en ta faveur auprès du juge. Ça compte, crois-moi. »
Cavanna fit profil bas.
Son talon droit battait nerveusement sur le parquet. Amandy estima qu'il était mûr et réutilisa la technique déjà employée avec Félix Scotti. Après les coups, il y eut les menottes enlevées, puis la cigarette. Franck devait admettre que le vieux loup l'impressionnait. Au bout de quelques minutes, Joseph Cavanna lâcha un peu de lest.
« J'habite tout seul. » Mes parents y sont partis à la Courneuve il y a un paquet de temps. Moi, je suis resté dans le quartier de la Goutte. Je suis maçon. Je bosse sur les chantiers. Je suis réglo, monsieur. »
Serge adressa un regard satisfait à Charcot, alla appuyer sur le magnétophone, puis récupéra 2 gobelets dans lesquels il versa du whisky issu de sa flasque. Il en offrit un au jeune homme qui ne savait pas sur quel pied danser. Accepter ou refuser? Amandy insista en lui collant le verre en plastique contre la poitrine. Cavanna trempa ses lèvres dans l'alcool.
« Tu vois quand tu veux, » fit Serge en l'accompagnant. « J'étais sûr que t'étais un bon gars. Tu t'es juste retrouvé embringué dans un truc que tu maîtrisais pas, c'est ça ?»«
Ouais, je maîtrisais pas. Elle avait pas dit qu'on embarquerait quelqu'un, et encore moins que c'était un flic, je te jure.
Je le crois. C'est pas marqué sur son front, après tout. Hein, Charcot ? C'est marqué nulle part que t'es une saleté de poulet.
Nulle part.
Voilà.
Bon, allons-y mollo, Joseph. Pour commencer, parle-nous de tes rapports avec Madly souffrant. » Qui est-elle pour toi? Comment tu l'as connue?
Serge lui tendit le cendrier sur le bord duquel le suspect tapota sa clope.
Elle tient une petite boutique de la rue Doudoville, depuis que je suis gamin. Un boui-boui à la vitre tellement dégueu que tu vois pas l'intérieur. Elle vend des épices, des écorces, des bougies, ce genre de machin. Les Haïtiens et les Antillais du quartier sont de bons clients. Nous, avec Tidjane, on a acheté du rhum arrangé là-bas dès nos 15 ans.
Il but un coup et tira sur sa cigarette. Le tabac crépita dans la pièce silencieuse. Charcot traîna une chaise par terre et s'assit à côté du gardé à vue.
Au fur et à mesure, elle s'est mise à nous filer des bouteilles gratos contre des petits services. En gros, on portait des colis à droite à gauche et on posait pas de questions. On récupérait aussi du pognon chez les gens qui lui en devaient. Parfois, elle demandait des choses cheloues, comme il y a 3 semaines où on a galéré à porter une tonne d'enveloppes. Mais c'est que ça qu'on faisait, on jouait les facteurs, rien de méchant.
Explique cette histoire d'enveloppe.
Pas grand chose à dire. Il y avait des centaines de paquets déjà prêts à l'arrière de la camionnette. Fallait les déposer dans les boîtes de tous les bureaux de poste qu'on croisait. On avait 2 consignes. Les refourguer dans la matinée avant que ça ferme, et jamais plus de 10 paquets à la fois. On s'est fait 4 ou 5 arrondissements.
À qui appartenaient ces paquets?
J'en sais rien, ils étaient là, c'est tout.
Combien il y en avait?
300, 500?
Ouais, dans ces eaux-là.
Immobile, Franck réfléchissait. Le méticuleux avait eu besoin de petites mains pour réussir son coup. Ce qui confirmait son rapport étroit avec la sorcière. Serge poursuivit.
T'étais au courant que Madly souffrant pratiquait le vaudou?
Plus ou moins. On savait qu'elle faisait des consultations dans sa boutique et qu'elle organisait des genres de cérémonies dans sa cave, chez elle à Marly. Parfois, elle nous demandait de lui ramener une chèvre, alors on lui ramenait une chèvre. Mais j'avais aucune idée de ce qu'elle foutait exactement. Tu te doutes que tout ça, c'était secret. Le vaudou, c'est sacré, faut pas rigoler avec ça. »
Il vida son verre, observa l'extrémité de son ego et l'écrasa à l'intérieur de son gobelet. Amandier s'appuya sur le bureau, face à lui, les bras croisés.
« Parle-nous d'hier soir. »
Cavana adressa un regard en coin à Charcot, qui le fusillait des yeux, puis détourna vite la tête.
« Mercredi, elle nous a dit qu'elle avait un truc pour nous et qu'on devait la retrouver dans son boui-boui le lendemain après-midi. Là, on a pris sa camionnette, on est allé chercher avec elle une caisse en bois chez Marlier, un gars qui bricole des meubles du côté de Barbès, puis on s'est garé dans la rue de Meaux, aux alentours de 18h. C'est à ce moment qu'elle nous a expliqué pourquoi on était là. Il y aurait un mec à embarquer dans la caisse dès qu'elle nous ferait signe depuis la fenêtre d'un immeuble. »
Il haussa les épaules.
« C'est aussi simple que ça. On a juste obéi. On a glandé 5 heures dans la fourgonnette avant que... Enfin, si on avait su de quoi il s'agissait, on n'aurait pas accepté. On croyait que c'était un type qui réglait pas ses dettes et qu'elle voulait lui foutre les jetons. »
Charcot en frissonnait encore. La Beaucor avait réussi à pénétrer dans son appartement sans qu'il s'en aperçoive. Était-elle, elle aussi, capable de déjouer les systèmes de fermeture, ou quelqu'un l'avait-il fait au préalable pour elle? Amandier sortit des photos d'un dossier et les étala sur le bureau. Il pointa les différents portraits d'Hélène Lemaire et de Delphine Escrémieux.
« Tu connais ?»«
Jamais vu. »
Le vieux flic lui donna une grosse tape à l'arrière du crâne.
« Attention, Joseph. Je veux bien être sympa avec toi, te filer de mon bon whisky et de mes cigarettes, mais ma patience a des limites. Je les ai jamais vus, je te dis !»
Autre cliché. La scène de crime à Saint-Forget. Le corps recroquevillé de Delphine. Le cercueil de fortune à côté de son trou à sa clé. Joseph Cavana pâlit face à l'horreur des images que lui imposait l'inspecteur de police.
« T'es malade, c'est quoi ce bordel? Je suis pas mêlé à ça, je suis pas un assassin !»«
Cette caisse dans la boue, c'est le même genre que celle qui a servi chez mon coéquipier, Joseph. On a des empreintes dessus, tu te doutes. Il suffit donc d'une comparaison avec tes paluches pour qu'on soit assuré que t'es impliqué. Si tu continues à nier, on peut légitimement penser que tu nous mens pour tout le reste, et que c'est toi qui as commis ces crimes ignobles. »«
J'ai rien fait, je te jure! T'as vu ce que cette femme a subi? Putain, c'est pas nous !»«
C'est pas vous. Vous avez juste fait les transporteurs, hein ?»
Il acquiesça timidement.
« Ouais, c'est ça, que du transport. »
« Explique. Quand, où, avec qui ?» Le jeune désigna la photo de la résidence de Delphine Escrémieux.
« Là-bas, dans cette drôle de maison dans la forêt. Une nuit, Madeleine nous avait embarqués à l'arrière de la camionnette avec Tidjane. La caisse était déjà là, vide. Il y avait quelqu'un d'autre sur le siège passager.
Qui ?»«
Un homme. »
Les yeux de Serge s'enflammèrent.
« Qui ?»
répéta-t-il.
« Donne son nom. »« J'ai pas de nom. Pas même de visage. Dans son fourgon, à Madeleine, il y a qu'une minuscule vitre qui permet de jeter un œil à l'avant. Ce mec, il avait des cheveux courts et noirs, une casquette foncée sans marque, et je crois qu'il avait une barbe. Mais c'est tout ce que je pourrais te dire. Lui et Madeleine parlaient pas. Il s'est jamais tourné vers nous. C'est sûr, il voulait pas qu'on le voie. »
Serge lança un regard à Charcot. C'était lui, le méticuleux.
Grand, petit, costaud, quel âge?
J'en sais rien. Pas costaud, non. Enfin, j'ai pas fait gaffe. Quand on est arrivé sur place, ils sont sortis, nous, on n'a pas bougé. Il s'est passé environ 1 heure avant que Madeleine réapparaisse. Elle nous a ordonné d'apporter la caisse dans la baraque et de patienter ensuite dans la fourgonnette, en attendant les instructions. Et encore 20 minutes plus tard, on s'est tapé un autre aller-retour pour charger la caisse. Elle était fermée et beaucoup plus lourde.
Tu m'étonnes. Tu trimballais la propriétaire.
Où était le type à la casquette pendant ce temps-là?
Dans la maison. Toujours loin de nous, mais il nous observait, planqué dans l'ombre. À l'intérieur, il y avait toutes ces peintures bizarres, je me souviens de ça. Et de l'ambiance chelou dans la forêt, juste éclairée par la lampe torche de Madeleine. Sinon, il faisait noir comme dans le cul d'une poule. Après, on s'est tous remis en route. Une longue route silencieuse.
Charcot n'eut pas de mal à imaginer le calvaire vécu par Delphine. Il avait subi la même chose. Cavana s'empara de la photo de la ferme abandonnée.
On s'est retrouvés là-bas, dans cet endroit merdique au milieu des champs. Madeleine nous a demandé de transporter la caisse derrière la vieille porcherie. Puis il a fallu creuser, la mettre dans le trou et reboucher. Mais je te jure sur ma mère, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Ça aurait très bien pu être des marchandises ou de la drogue.
De la drogue, j'avais pas pensé, tiens.
Vous êtes retourné déterrer le cercueil plus tard?
Jamais.
On n'y est jamais retourné.
Qu'est-ce que vous avez fait après?
On est rentré.
Madeleine nous a largué du côté de la gare du Nord et c'était terminé.
Quand précisément?
Un lundi, un mardi, novembre, décembre, file-nous la date exacte.
Cavana réfléchit.
Attends, on était encore en novembre. Un samedi dans la nuit. Ouais, c'est ça, on devait être le dernier jour de novembre, le 30.
Serge termina son gobelet et alla le jeter à la poubelle. Charcot, lui, moulinait tout ça dans sa tête. Delphine Escrémieux avait donc été enlevée à Saint-Forget le 30 novembre, probablement poudrée comme il l'avait été.
Il bouillait de l'intérieur. « Combien de fric pour ça, espèce de petit enfoiré ?» fit-il en se rapprochant. « Combien elle t'a donné pour nos vies ?»«
500 balles chaque fois. »«
Je suis désolé, mec, mais... » Franck se précipita soudain sur lui, la grippant par le col de sa veste de survêtement. La chaise bascula, et le flic l'écrasa de tout son poids.
« Tu riais ! Tu riais pendant qu'elle s'apprêtait à me tuer !»
Amandier le tira en arrière alors qu'il mettait ses mains autour de la gorge du jeune. Ses yeux étaient révulsés.
« Laisse-le, Charcot, ça va ! Ça va !»
Franck reprit son souffle. Il se redressa, haletant, les poings serrés. Serge releva Cavana sans délicatesse et le rassit. Il se tourna ensuite vers son collègue, lui tapa amicalement sur l'épaule et lui tendit ses clés de voiture. « Prends ma bagnole, rentre un peu chez toi te reposer. Vu ce que tu t'es mangé ce soir, personne t'en voudra, crois-moi. » À ce moment, Einstein frappa un coup et passa sa tête dans l'embrasure. Il fit signe au numéro 2 du groupe de sortir. Ce dernier menotta son suspect et se rendit dans le couloir, tout en gardant un œil sur l'intérieur de la pièce. Il s'agissait de ne pas répéter le fiasco du père Escrémieux. « Je viens d'avoir Santucci au téléphone, » marmonna Einstein. « Ils ont retrouvé Madly souffrant, morte dans un fossé à quelques centaines de mètres à peine de la baraque. Elle s'est ouvert la gorge. »